La personne assise en face de moi est extrêmement lumineuse. Elle a des cheveux frisés qui encadrent son visage. Elle sourit en écoutant attentivement. Elle a les yeux en amande et toujours ce grand sourire. C'est vraiment ce que je retiens. Je suis Lauriane Meulière et je reçois Stéphie Selma, comédienne, chanteuse et productrice. Bienvenue dans Émotion de peau, un podcast MyBlend. Toi, quand tu te regardes dans un miroir, qu'est-ce que tu vois ?
Aujourd'hui, j'ai bientôt 35 ans. Je dirais que je vois une femme plus ancrée qu'il y a quelques années, bien dans sa vie, heureuse en tout cas, et épanouie. Je suis née à Paris, j'ai grandi à Stein, un peu en Martinique, et dans le 77. Je vois le parcours qui a été fait depuis que j'ai commencé, notamment mon métier de comédienne. Ça va faire bientôt 15 ans et je me dis que... Cette petite fille qui rêvait de faire ce métier, il se passait des choses pour elle entre ces 15 années. Je crois que c'est ce qui me vient à l'esprit naturellement.
La première chose qu'on voit chez toi, en tout cas ce que j'ai vu chez toi, c'était ton sourire. D'ailleurs, je l'ai décrit à deux reprises quand je parlais de toi. Et c'est aussi ta lumière. C'est vraiment quelque chose qu'on voit tellement que j'ai l'impression que cette lumière, on pourrait l'attraper ou la toucher. C'est assez fou, c'est quelque chose de palpable. Et j'imagine qu'on doit te le dire souvent, parce que si moi je la vois, peut-être que d'autres aussi. Est-ce que cette lumière a toujours été là ? Et est-ce que cette lumière, c'est vraiment toi ?
Cette lumière, en tout cas, que tu décris et qu'on m'a souvent décrite, je crois que c'est quelque chose qui est un espèce de mécanisme. Moi, j'ai une histoire, je suis née de deux parents antillais qui ont débarqué dans les années 70 pour soigner une de mes sœurs, parce que je suis la dernière de trois filles, donc qui était handicapée, qui n'est plus là. Voilà, mes parents sont arrivés dans la difficulté avec une enfant handicapée, donc... À l'hôpital, ils ont fait des allers-retours à l'hôpital jusqu'à ses 11 ans, je pense. Presque hebdomadaire, au fait. Je sais pas si quand un enfant arrive dans une famille, il est missionné pour quelque chose, mais moi, je sentais, en arrivant après ma sœur Karine handicapée, que j'avais cette mission, en tout cas, de divertir ma famille pour commencer. Et Karine, avec qui j'avais une relation très fusionnelle, et j'avais besoin de la faire rire. Donc, c'est vrai que c'est comme peut-être une question de survie, entre guillemets, quoi. Après, c'est vrai que j'ai rencontré plusieurs personnes sur mon chemin qui me posaient la question « Mais comment cette énergie? Pourquoi ?» Et c'est vrai que je me suis fait un peu mon examen de conscience et je me suis rendu compte effectivement que ça partait de là. Au début, ça a pu me desservir aussi parce que parfois, des gens qui connaissaient pas mon histoire me disaient « Mais toi, ça va ta vie, quoi, tu vois ?» Et toi, t'es là, tu te dis... De quoi on parle ? Tu vois, tu te dis, mais ça va, tu souris, t'es là, tu donnes de la vibe aux gens. Et c'est vrai que j'ai aussi un peu mesuré ça. Parce que j'avais développé ce mécanisme qui, finalement, était spontané, mais qui était devenu un mécanisme et parfois qui pouvait me desservir, alors qu'à des moments, j'avais pas cette énergie-là, mais que je me sentais l'obligation de donner de la vibe, quoi.
Donc, tu as deux sœurs, deux grandes sœurs, Karine et Valérie. Karine est donc en situation de handicap. Est-ce que tu peux me parler de tes sœurs, de ta relation à tes sœurs, ce lien ?
Alors, Karine n'est plus de ce monde, malheureusement. C'est vrai que je dirais que quand on a un enfant handicapé dans une famille, moi, je suis arrivée, tu vois, elle était déjà là. Donc, pour Valérie, si tu poses les mêmes questions à Valérie, elle va te décrire une toute autre histoire parce qu'elle avait le rôle, on va dire, de deuxième maman, entre guillemets. Moi, j'arrive, j'ai une grande sœur handicapée. Pour moi, c'est ma normalité, quoi. Elle était en chaise roulante, tu vois, donc elle pouvait pousser des cris, faire des trucs un peu... Enfin, je comprends que ça soit intriguant. Elle, en plus, elle avait une trisomie numéro 9, donc c'est mental et du coup, ça agit sur le physique. Elle avait un truc très vulnérable, quoi. Elle était toute frêle comme ça, tu vois, donc elle poussait des cris de joie, quoi, tu vois. Il n'y avait rien de menaçant.
Qu'est-ce que tu ressentais quand justement on dévisageait ta sœur, quand on lui lançait des regards pas forcément tendres? Qu'est-ce que tu aurais aimé leur dire? Qu'est-ce que tu as pu leur dire? Comment est-ce que tu le vivais en fait dans ta chair, dans ta peau?
Toute jeune, tu comprends pas. C'est tellement violent que t'as de la colère, hein, ça c'est évident. Tu vois des gens regarder cet enfant avec des yeux de peur ou des yeux de curiosité, etc. Moi, j'étais très sur la défensive, petite. Très, très sur la défensive. Et je me rappelle même quand on allait faire des courses et que je voyais des gens, même des adultes, je me disais, mais je comprends pas, explique à ton enfant. Et je leur disais, naturellement, mais elle est super gentille, hein, vraiment, y a pas de souci. Et c'est vrai qu'avec les enfants, le lien pouvait se faire des fois plus naturellement. Et ils se retrouvaient à jouer avec elle et c'était assez fluide au final, tu vois.
Il y a 11 ans, tu vis donc l'expérience du deuil avec la disparition de ta grande sœur Karine. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là et comment est-ce que tu te sens dans ta peau avec cette sœur qui n'est plus à tes côtés ?
En fait, elle était partie en colonie, comme tous les ans. Et moi, j'étais en vacances à ce moment-là. Et donc, j'ai appris ça via ma cousine. C'est-à-dire qu'elle ne savait pas que j'étais pas encore au courant. Donc, ça a été d'une violence. C'est-à-dire qu'elle m'appelle, elle me dit « Oui, Steph, voilà, mes condoléances. » Je lui dis « Mais de quoi tu me parles ?» Et donc là, j'appelle Valérie directement. Et là, elle est en pleurs et je comprends, en fait. Et je me rappelle les premiers mots qui sont sortis, c'est « Non, tout sauf ça, au fait. Tout sauf ça. » Donc, je me suis écroulée. C'était violent, quoi. C'était vraiment violent. Et j'ai mis du temps à l'accepter parce que même plus jeune, tu vois, j'avais des réflexes un peu bizarres. Quand elle dormait, j'allais voir si elle respirait des trucs. C'était comme si c'était mon petit bébé aussi, quoi. C'est très bizarre, tu vois. J'ai mis du temps à faire le deuil parce que je trouvais ça injuste. Je me disais, non seulement tu arrives sur cette terre avec des difficultés motrices et mentales, et en plus, tu pars à 29 ans comme ça. Enfin, pour moi, c'était trop... Voilà. Après, le temps te fait comprendre des choses aussi. Moi, je suis quelqu'un de très spirituel, donc c'est vrai que ça m'a beaucoup aidée. Mais ça a été quand même un sacré morceau à digérer.
Comment est-ce que tu décides de devenir comédienne ? Est-ce que c'est une décision, déjà ? Ou est-ce que c'est la vie comme ça et les rencontres qui t'attrapent et qui te mettent sur le chemin de ? Parce que finalement, à travers ton parcours, t'as toujours été en lien avec la création. Mais est-ce que la comédie, ça a été quelque chose d'assez net pour toi au départ ?
Alors, très jeune, j'étais donc très timide, mais j'avais une passion pour les sketchs, etc. Donc, à chaque fois qu'il y avait des enfants qui venaient à la maison... J'avais toujours une idée de sketch, de spectacle, etc. Ça me passionnait, au fait. Mais j'imaginais pas que ça pouvait être un métier vu le milieu duquel j'étais issue, au fait. Mais j'aimais aussi beaucoup la musique. Donc j'avais tante, oncle, cousin, cousine qui étaient dans des chorales gospel, tu vois. Et j'allais les voir régulièrement et j'adorais ça. J'avais mon oncle qui était bassiste et qui m'a fait jouer pour la première fois au piano. Et naturellement, je me disais, bon, la musique, comme dans mon entourage, il y a des musiciens, c'est plus accessible, au fait. Donc, j'ai commencé par ça. Et puis, le cinéma est arrivé dans un second temps. J'avais mis des chansons sur MySpace. Et il y a un directeur de casting qui était entré en contact avec moi pour passer les essais d'une première comédie musicale qui s'appelait Sol en cirque. Donc, j'ai fait les essais, ça a fonctionné. Ensuite, il m'a rappelé pour un autre spectacle musical qui était monté par la fille d'Aznavour et Jean Rachid, qui est aujourd'hui le manager de Grand Corps Malade. Et c'est en faisant ce spectacle qu'une directrice de casting est venue et m'a proposé de jouer dans une série à l'époque qui s'appelait Seconde Chance. Et moi, j'avais jamais fait ça de ma vie. C'est pour jouer le rôle de jumelle. Donc j'y vais, je passe l'audition, je suis stressée comme pas possible. Mais j'oublie. En fait, ça me sort de la tête, quoi. Je me dis... Entre guillemets, je l'ai fait, c'est fini, quoi. Et un mois après, j'ai cette femme, Nathalie Luquiens, qui m'appelle et qui me dit « Oui, Stéphie, c'est Nathalie, c'est pour te dire que c'est bon, t'es prise pour la série. » Je dis « Pardon, de quoi ?» Quand je te dis que j'avais fait un blackout, j'avais zappé, je me rappelais même plus, quoi. Et je me rappelle, j'étais en studio et je me dis excusez-moi, de quoi il s'agit, mais t'as passé des essais pour une série ? Je lui dis « Oui ». Elle me dit « Bah, t'as été prise. » Je lui dis « C'est une blague. » Elle me dit « Ah non, c'est pas une blague, en fait, tu commences dans 2 semaines. » Je lui dis « Mais c'est une blague !»
Pour tes premiers castings, tu dis que tu es extrêmement stressée, très angoissée. C'est quoi comme sensation ? Est-ce que ce stress se manifestait aussi de manière physique ? C'est-à-dire que tu le voyais, tu le sentais, si tu te regardais dans un miroir, tu disais « Ah ouais, non mais là, ça va pas du tout, il y a cette audition dans 4 heures, ça se voit sur mon visage, quoi. »
Bah, c'est des bouffées de chaleur extrêmes, c'est, tu vois, des bégaiements, des « je cherche mes mots ». Les premiers castings, c'était pas glorieux, hein, j'avoue que... Et t'as raison, je le vois surtout, c'est-à-dire je le vois même jusque dans ma digestion. Je le vois parce que la digestion est liée à l'émotionnel et la digestion, c'est la. Enfin, tu parlais du corps, de la peau. Bah, c'est lié. C'est-à-dire que aujourd'hui, je le vois même sur mon teint. Quand je me sens bien émotionnellement, je sens que ça se reflète sur mon teint. Et à l'époque, effectivement, ça pouvait clairement se marquer sur mon visage, au fait. Et c'est vrai que le lâcher prise est venu avec les années. Je me disais, OK, prépare ton audition. Prépare-la vraiment bien. Ça, c'était mon petit côté première de classe. Mais je me disais, mais fais pas trop ta première de classe non plus. C'est-à-dire que tu prépares, t'as pris ton texte, tes intentions, tu vois un peu comment tu ressens la scène, mais sois dispo pour entendre ce que la directrice de casting a de dire, pour ne pas, parce qu'elle te dit de changer d'émotion ou machin, de te dire « merde, ce que j'ai fait, ça va pas », enfin tu vois, ou te mettre un stress inutile. Sois juste disposé, disponible pour donner le meilleur, et voilà. Et c'est vrai que ce lâcher-prise-là, à débloquer des choses. Et effectivement, à partir du moment où j'ai compris que le lâcher prise était essentiel dans ce métier, ça m'a permis de me sentir plus moi-même, plus ancrée et mieux dans ma peau. Et c'est vrai que ça a débloqué directement sur plein de possibilités. Quoi. Le champ des possibles, c'est ouvert.
Quand tu as des angoisses, tu es beaucoup dans ta tête. Ça tourne beaucoup dans ta tête. Et la tête chauffe et tu as du mal à réinvestir peut-être ton corps. Est-ce que justement, peut-être le champ et la comédie, ça a été des outils pour toi pour réinvestir ce corps et pour, on va dire, calmer un petit peu le mental.
Purée, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que je pense que c'est tout à fait juste. Le chant et la comédie, c'est très instinctif. En tout cas, moi perso, je vais être touchée par des acteurs ou des chanteurs qui réfléchissent pas. Tu vois, qui sont vraiment dans quelque chose de très brut, authentique. Et c'est vrai que... Étonnamment, en tout cas en comédie, ça a été mon réflexe d'être dans un truc plus instinctif parce que j'ai pas eu de formation. Donc je devais faire avec qui j'étais. Et c'est vrai que naturellement, c'était plus l'instinct qui parlait. En musique aussi, j'adore la guitare, quoi. Et c'est vrai que c'est un instrument, même plus que la voix, je dirais, où mon instinct s'exprime vraiment sans réfléchir. Donc ce que tu dis est très juste.
Tu m'as dit que ton père est quelqu'un de très angoissé et que tu as récupéré certaines de ses angoisses, des choses donc qui peut-être ne t'appartenaient pas totalement. De quoi il s'agit exactement et qu'est-ce qui te pesait ou qu'est-ce qui a pu te peser au cours de ta vie ?
Moi, je crois vraiment à la transmission des natures, finalement, aux existences prénatales, etc. C'est un petit peu abstrait et mystique, mais j'ai la sensation que parfois, quand on n'a pas réglé des choses, bah, on peut le transmettre à nos enfants et vice-versa. La chaîne peut continuer longtemps. Et c'est vrai que moi, j'ai hérité de ça de mon père, qui est quelqu'un de plutôt très angoissé. J'ai travaillé sur cet aspect. Et aujourd'hui, je vis beaucoup mieux. Alors lui, il a peut-être aussi hérité d'un de ses parents ou d'un de ses arrière-grands-parents, j'en sais rien. Et ça, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui a pu me suivre longtemps. Mais dès que j'ai pu l'identifier et m'en débarrasser, alors après ça revient à des moments, je suis pas une warrior, hein, mais ça m'a aussi allégé, mais à un point.
Quand on parle de transmission et de transmission familiale, il y a un essai qui est paru en 2004 qui s'appelle Secret de famille et transmission invisible. L'autrice, c'est la psychologue et psychothérapeute universitaire française Anne Ancelin-Schutzenberger. Et elle parlait justement de ces transmissions généalogiques qui s'inscrivent dans notre chair, dans notre peau, hein, vraiment, sans que les choses ne soient pourtant dites. Et il y a un extrait que j'ai isolé et tu vas me dire ce que t'en penses. Elle dit « L'être humain naît dans une famille qui lui transmet un héritage conscient et inconscient comprenant des missions, des loyautés familiales visibles ou invisibles, des loyautés de clan, culturelles, religieuses, nationales. Tout individu est imprégné, qu'il le veuille ou non, qu'il le sache ou non, de ses liens et habitus de loyauté familiale, des traumas et traumatismes. Une empreinte se crée ainsi, de façon très précoce. Elle restera en mémoire et en mémoire corporelle. » Est-ce que toi, tu ressens ça ? Est-ce que tu as porté ce bagage qui t'appartient pas totalement ? Et comment est-ce que ce bagage s'est inscrit dans ta peau à toi ?
C'est fou. Je suis vraiment dans ça, en plus, tu vois, en ce moment. J'ai pas étudié la question plus que ça, mais c'est quelque chose, pareil, instinctivement, que je ressens. Qu'effectivement, il y a une transmission de choses qui ne nous appartiennent pas, qu'il faut qu'on laisse sur le côté, quoi, les valises qu'on porte inconscientes et qui nous ne servent pas spécialement dans la vie.
Et toi, ton bagage, il est lié à quoi dans ta famille ?
Moi, je suis d'origine martiniquaise, donc il y a des mécanismes aussi qui sont liés, j'imagine, à... Enfin, j'imagine, je le vois, évidemment, à l'histoire des Antilles, à l'esclavage, etc. Donc, c'est vrai que la recherche identitaire, c'est quelque chose, j'ai l'impression, en tout cas dans ce genre d'endroit qui est très présente, c'est quelque chose que je découvre, je vais avoir 35 ans comme je disais, donc à la trentaine, ça a été vraiment très, très important pour moi de comprendre beaucoup de choses sur qui j'étais, l'histoire de même de mes ancêtres.
Comment tu décrirais ta culture antillaise et a fortiori martiniquaise ? Elle se caractérise par quoi ?
Le bon dans la culture antillaise, je dirais que c'est y a, la solidarité, c'est quelque chose, tu vois, d'essentiel. Je dirais, cette culture musicale aussi, cette envie de fête, cette envie de... Ça, c'est quelque chose, c'est la musique, la danse, c'est quelque chose d'essentiel chez nous, tu vois, qui, en tout cas, moi, m'a donné, alors que j'étais très timide, l'envie, tu vois, d'exprimer ça à toutes les sauces, quoi, tu vois. Après, le côté négatif, mais en même temps, je dirais que c'est ce qui m'a permis aujourd'hui de me forger d'identifier aussi pas mal de choses, c'est le côté suréducation.
C'est quoi la suréducation ?
Pour moi, la suréducation, c'est le fait de vouloir bien faire attention à ce qu'on dit, les mots qu'on utilise, etc. Et ça, j'ai vraiment vu ça dans ma culture antillaise. Mes premières interviews, je me rappelle, je réfléchissais 15 fois avant de sortir un mot. Je manquais de spontanéité, ça me coûtait beaucoup parce que je savais que c'était très important, la façon dont je m'exprimais, etc. Et ça, ça a été quand même pour moi un frein. Il y a un truc qui est lié au colonialisme dans l'envie de bien faire. À l'époque, bon bah voilà, esclavage. Même t'avais des termes quoi, le nègre de maison et le complexe par exemple de ne pas bien s'exprimer. En tout cas chez nous c'est essentiel. Tu vois, il faut, y a un truc où voilà, tu dois bien t'exprimer, réfléchir à tes mots. En tout cas qui m'ont retiré parfois de la spontanéité là où moi instinctivement j'avais envie, tu vois, de dire un peu tout ce qui me passait par la tête. Donc ça c'est un espèce de contrôle sur contrôle si je dirais qui a pu m'handicaper dans ma vie.
Est-ce que y a un rapport particulier à la peau et au corps, justement, aux Antilles et en Martinique, que tu aurais pu constater ou des choses particulières ?
Naturellement, instinctivement, je penserais aux cheveux. Moi, quand j'étais petite, donc j'avais donc mes cheveux frisés comme ça et imposants, et naturellement, plus jeune, donc on n'avait pas vraiment d'exemple. Et puis, surtout, il n'y avait pas de produits adaptés à nos cheveux frisés. Donc, quand t'es petite et t'as 10 ans et que tu vois tes princesses Disney, t'as envie d'avoir les cheveux lisses. Et donc, déjà, les cheveux, il y a un vrai complexe avec ça. Je me rappelle même avoir entendu ma grand-mère me dire j'arrive avec mes cheveux décoiffés pour elle, parce qu'ils étaient simplement libres. En créole, elle me dit hypein. Ça veut dire va te coiffer, quoi. Là, ça va pas, quoi, tu vois.
Tu t'es défrisé les cheveux ?
Je me suis défrisé les cheveux à 10 ans, quoi, tu vois. Genre. Il n'y avait pas spécialement de produits adaptés aux cheveux frisés, donc la solution de facilité, c'était le défrisage. Donc toutes mes cousines, enfin on y est toutes passées, quoi, le défrisage chimique à la soude, tu vois. Donc c'était super, mais je ne me posais pas la question parce que pour moi c'était un fait établi, c'est comme si je faisais un shampoing, quoi, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est comme si t'es jeune, ah oui mais tu te défrises, c'est pas... et on ne te dit même pas que tes cheveux sont... Enfin si, on va te dire, ah oui non mais là t'as des racines, il faut que tu redéfrises, mais c'est ancré. Tu réalises pas, c'est plus tard quand tu conscientises que tu dis attends, mais là en fait on est en train de mettre de la soude sur la tête, donc c'est cancérigène, enfin c'est pas bon du tout.
Finalement, tu n'acceptes pas tes cheveux, mais c'est pas toi qui les acceptes pas, c'est aussi la société qui a pas spécialement envie d'en entendre parler ou d'adresser le sujet.
C'est un truc qui est très présent pour le coup. Après, j'ai appris des choses aussi avec le temps. Quand j'étais petite, comme j'ai les cheveux frisés et les yeux clairs, quoi, et que je suis claire de peau, on m'appelait Chabine. Mais Chabine, j'ai appris par ma petite cousine, qui est pareille, donc qui a un peu le même profil que moi, que ça, je crois que ça, c'est le petit de la chèvre. Donc c'est des choses, tu te dis, ok, pareil, le mulâtre, donc mulâtre, c'est lié à l'âne, en fait. Et nous, Antillais, on reprenait ces termes, et ils sont encore d'actualité, au fait. Mais toujours péjoratifs, au final, quand on analyse d'où ça vient.
Comment est-ce que tu as fait pour te réapproprier tout ça de façon positive et t'affranchir un petit peu de ce regard qui est peut-être pas le plus bienveillant et qui est toujours un peu dans le contrôle pour être le plus parfait, celui qui dit le mieux, celui qui ressemble le mieux à ce qu'il faudrait à un modèle qui est un modèle européen en fait?
Bah en tout cas, j'ai essayé de m'informer déjà. Et puis, après avoir identifié ce qui était, on va dire, dévalorisant, bah je l'ai sorti de ma vie, quoi, on va dire. Mais sans rancune, hein. Je pense que j'avais tout juste 20 ans et je me suis dit non, là, je vais repasser aux cheveux frisés, au fait. Et je me suis retrouvée avec genre 4-5 cm de cheveux, tu vois. Et ce qui est assez fou, c'est que moi, j'ai commencé à faire de la comédie, j'avais les cheveux lisses encore. Et quand j'ai décidé d'assumer mes cheveux frisés, il y a eu un vrai tournant aussi, significatif. C'était au moment de Case Départ que j'avais fait. Case Départ, c'était en 2010. Et du coup, là, c'est le premier casting que je fais. Et je venais de me couper les cheveux. Ça fonctionne. Ensuite, j'ai fait un film de Maurice Barthélémy qui s'appelle Pas très normale activité. Pareil, j'ai mon afro. Et il me dit oh, j'adore, enfin, on change rien, quoi, s'il te plaît, etc. Pour moi, ça a été un atout. Ça je peux pas dire que mes cheveux frisés m'ont au contraire fait moins bosser. Ça a été tout le contraire. Quand j'ai fait 10%, je suis arrivée avec mon afro et il me dit purée, mais ça peut pas être encore plus volumineux, c'est tellement beau. Et donc, c'est vrai que je me suis retrouvée avec des réalisateurs qui, eux, au contraire, m'ont poussé à m'affirmer dans mon identité.
Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui au quotidien pour prendre soin de toi et de ta peau ?
Alors au quotidien, ça commence par une alimentation plutôt équilibrée. Si par exemple je fais des excès, je vais pas me sentir bien dans mon corps, dans ma digestion, etc. Donc naturellement, je vais rééquilibrer, mais c'est même pas forcé. C'est-à-dire que je vais me dire là, je sens que j'ai besoin de légumes, j'ai besoin de fibres, j'ai besoin de céréales. Enfin, c'est basique, mais j'ai l'impression en tout cas d'avoir, avec les années, acquis une vraie connaissance de mon organisme, au fait, de mon intérieur, si je puis dire. J'écoute vraiment, je me dis, attends, là, j'ai envie de quoi, au fait ? Donc, je suis très à l'écoute, on va dire, de mes envies, et j'ai l'impression que le cerveau est lié aussi au ventre, tu vois. Et donc, quand le cerveau te dit, hey, warning, t'as besoin de ça, bah, je suis le truc. Et après, pour la peau, pareil, l'idée de me démaquiller tous les soirs, même le matin, quand je me réveille, j'ai ma petite eau micellaire que je vais utiliser pour me démaquiller, me mettre une crème hydratante sur le visage, forcément, me faire de temps en temps des masques, des gommages, etc. Ça fait partie des rituels. Donc voilà, j'ai été quand même bien entourée de femmes qui prenaient soin d'elles, de leur peau, et c'était important de bien se nourrir. Je sais que c'est la base, hein, c'est l'essence. C'est ce qui te permet effectivement d'avoir de l'énergie, d'avoir un teint éclatant. Je crois que c'est culturel aussi. Chez les femmes noires, en tout cas, je sais qu'il y a quelque chose où tout ce qui est cosmétique, c'est un vrai business. En tout cas, moi, je me mets de la crème le matin et le soir sur le corps.
Et justement, quand tu te mets de la crème ou quoi, est-ce que c'est quelle sensation c'est ? Est-ce que c'est quelque chose dont tu pourrais te passer ou pas du
Vraiment
tout
pas. Il me faut ma crème, sinon j'ai l'impression d'avoir la peau qui tiraille, etc. Non, je me sens pas à l'aise, en fait. C'est un rituel qui est tellement ancré depuis que je suis née et que je ne vois pas le changer aujourd'hui. C'est comme une sensation de réconfort. Tu sais, j'ai l'habitude de ma peau hydratée. Je ne sais pas ce que ça veut dire une peau sèche. Ça fait partie de mon bien-être.
Aujourd'hui, donc, t'es comédienne, productrice, chanteuse. C'est un milieu qui est extrêmement homogène. Enfin, c'est-à-dire que, en tout cas en France, ça peut être difficile d'avoir un peu plus de profils qui sortent de l'ordinaire, qui ne se ressemblent pas tous les uns les autres. On a un peu ce côté le cinéma français où voilà, c'est pas forcément facile de se faire une place. Comment ça s'est passé, toi, ton rapport justement à ta peau, à ta personnalité, à peut-être ta couleur de peau, pour intégrer ce milieu qui est pas facile d'accès pour personne, mais qu'il est d'autant moins quand on vient pas de ce milieu-là de base, qu'on n'est pas blanc ou blanche et qu'on a grandi en banlieue.
C'est très intéressant ce que tu dis parce que il y a eu de tout. Je me rappelle mon agent, un jour j'ai une amie qui me dit il y a telle audition, ça correspond totalement à ta description, faut que t'en parles à ton agent si jamais elle est sur le coup. Et j'en parle et mon agent me dit, ils m'ont dit qu'elle était dégoûtée de me le dire. Elle osait même pas, elle se dit, mais ils m'ont dit qu'ils cherchaient pas quelqu'un de couleur et tout. Je dis, mais, enfin, en tout cas, dans le descriptif, il n'est pas question d'origine, etc. Ça m'est arrivé, en toute honnêteté, une fois. Après, j'ai vécu tout le contraire aussi. C'est-à-dire que, je pense à Maurice Barthélémy notamment, qui, dans son film Pas très normale activité, qui cherchait une Mona Lisa des temps modernes. Donc, je ne correspond pas vraiment spécialement à ça. Et lui, ça a été au contraire. C'est-à-dire que ma couleur de peau n'était pas un sujet. Je me rappelle pour 10% aussi, je sais que dans les auditions, ils ont vu des filles de toutes les origines, de toutes les morphologies. Enfin, ça n'était pas ça la question. Ils cherchaient une énergie. Et donc, c'est vrai que j'ai été confrontée à ça vraiment et à des gens qui voulaient me pousser vraiment à être vraiment moi, tu vois. Donc, que ça soit dans mon énergie, dans ma façon d'être, ma coiffure, c'est-à-dire me pousser à m'affirmer encore plus. Tu vois, je me dis, après, il y a des communautés qui ne sont pas encore très représentées chez nous. Hein. Tu vois, les Asiatiques, c'est encore, je trouve, qu'il y a encore une place pour eux qui doit être là. La communauté indienne aussi, tu vois, je me dis, donc voilà, il y a encore du chemin à faire, mais c'est vrai que moi, je ne peux pas, en tout cas, mon histoire, c'est ça, je ne peux pas dire... Ah non, ma couleur de peau et mes cheveux ont été un obstacle.
Quel rapport tu entretiens avec ton image de façon générale? Parce que tu exerces un métier où tout est extrêmement visible. C'est-à-dire que tu te mets en scène. Donc littéralement, on te filme, on te photographie, on t'entend, on te voit parler, bouger. Ou on t'entend chanter, donc ça engage aussi le corps. Comment tu gères ton image et le regard des autres?
Aïe, aïe, aïe. Comment je gère mon image? C'est un peu con, mais je crois que j'essaye de pas trop me poser de questions. Tu vois, par exemple, un truc, c'est que je vais jamais... Par exemple, quand je tourne, je vais très rarement regarder au combo. C'est un petit écran où tu vois un peu... Enfin, où tu as le réalisateur qui suit ce qui se passe. Moi, quand un réalisateur me dit viens voir ce que tu as fait, je vais dire franchement, si c'est pas obligé, j'y vais pas. C'est-à-dire que de me voir bouger, évoluer, etc., au début, pour moi, c'était un supplice, hein. C'était un supplice, je me disais, mais attends, donc tes bras, ils se balancent comme ça, au fait. T'as cette allure-là. Et je me suis aussi forcée à ne pas trop me regarder pour garder une fraîcheur et une spontanéité. Quand je me regardais trop, j'avais tendance à me limiter dans mes gestes et ma spontanéité, parce que c'est vrai que j'ai un truc, parfois, qui peut être très expressif. Et des fois, je me disais, attends, celle-là, c'est peut-être un peu trop, là, on voit, enfin, je sais quoi, cette tête, tu vois. Mais je me sens bien dans ma peau, vraiment. J'ai envie de rester libre, quoi. J'ai pas envie de me moi-même être mon propre ennemi, tu vois.
Lorsque tu tournes 10%, la France te découvre, parfois pour la première fois, dans le rôle de Sophia. On se met à te reconnaître dans la rue, on projette aussi peut-être des images sur toi. Comment est-ce que tu le vis, cette médiatisation, le fait de ne plus être anonyme?
Je le vis très bien parce que les gens sont très doux. Je sais pas, mais c'est ce que cette série a provoqué. Tu vois, par exemple, juste avant, moi, j'avais fait Les Profs et je voyais l'hystérie autour de Kev Adams. Je me disais, mais Jesus. Donc lui, je sentais qu'il était dans un espèce de tourbillon et que sa vie était un peu... Enfin, voilà. En tout cas, l'hystérie qu'il y avait autour de lui, c'était particulier. Là où, par exemple, avec 10%, pas du tout. C'était plutôt des gens qui te regardent comme ça dans le métro, qui te sourient... ou qui viennent et qui te disent, voilà, j'ai vu la série, j'adore, hein, voilà, bon, voilà, c'était juste, voilà, je vous dérange pas. Donc ça a toujours été comme ça, très doux, très respectueux. Même si les gens m'identifient et que dans mon quotidien, oui, on m'aborde, mais ça reste toujours très calme.
Comment est-ce que tu parviens à te mettre dans la peau d'un personnage que tu dois interpréter? C'est quoi le process?
Il y a toujours un peu de soi, hein, dans chaque perso, mais j'essaye pour le coup de m'imprégner du scénario, de comprendre un peu qui elle est, de lui inventer une histoire pour essayer de m'ancrer dans ce personnage et d'essayer de me dire, bon là, est-ce qu'elle réagirait de telle ou telle façon? Donc, on va dire que ça, c'est ma méthode instinctive. quand on vient me chercher pour, en tout cas, une énergie qu'on connaît de moi, là, j'essaye de me laisser un peu libre. Ce qui est sûr, c'est que l'avantage d'une série comme 10%, c'est qu'il y a eu 4 saisons. Et donc, du coup, ça nous a permis de nous roder aussi. Là, t'as le temps d'ancrer un personnage, le travailler, te tromper, te dire, bon, là cette scène-là, je suis pas satisfaite, faut que je réajuste sur celle d'après, etc. Donc, du coup, c'est un truc, je dirais, une confiance, pas seulement parce qu'il y a les yeux du public, qui évidemment apporte beaucoup de force et d'amour, mais aussi parce que le fait d'être dans une constante, le fait de tourner comme ça, tourner pendant 4 mois non-stop, bah, du coup, ça te permet de développer des automatismes et d'appliquer encore plus le lâcher-prise dont je parlais.
Donc, tu entres dans la peau d'un personnage, tu l'interprètes, puis ensuite, le tournage se termine, ou voilà, c'est le clap de fin. Est-ce que ces personnages s'inscrivent, on va dire, dans ton corps et dans ta peau après la fin du projet?
Alors, pour le coup, ça a pu arriver. Notamment, là, j'ai tourné un film d'action, la suite d'un film qui s'appelle Balles perdues pour Netflix. Et donc sur ce deuxième volet, pardon, mon personnage prend de l'ampleur, même physiquement, etc., dans les combats et tout. Et ça, je l'ai senti dans mon corps, vraiment. Après, il y a des tournages qui émotionnellement te tiennent et te bouleversent. Moi, je sais que sur 10%, à la fin de 10%, il y avait un truc où c'est comme si je sentais que je faisais partie d'un truc vraiment où, en tout cas, il y avait une espèce de pureté, il y avait de la bienveillance, il y avait de la joie, il y avait des gens passionnés, enfin, tu vois, où tout le monde, on marchait tous ensemble et je me disais, mon Dieu, mais est-ce que je vais retrouver ça ?
Au moment où on est en train de tourner ce podcast, de l'enregistrer actuellement, tu es enceinte de ton premier enfant. J'imagine que ça doit être un gros bouleversement, à la fois psychologique, corporel, peut-être même professionnel, alors peut-être pas tout de suite, mais dans les mois qui vont venir. Comment est-ce que tu vis cette grossesse dans ton corps, quoi, dans ta peau ?
En fait, c'est cet enfant, je le voulais vraiment. Après, je me disais qu'il allait arriver en son temps. Et je dirais que les 3 premiers mois ont été quand même particuliers. Parce que, mais ça, on me l'avait déjà dit, parce que j'étais déjà très, très fatiguée. Je me retrouvais à dormir un peu partout. Là, du coup, je passe cette phase apparemment. Donc là, je suis dans la phase de la lune de miel de la grossesse. En tout cas, j'apprécie mon corps aujourd'hui. Enfin, j'apprends à le voir changer, mais en toute honnêteté, je l'aime vraiment beaucoup. Et j'apprends à ressentir aussi des petites sensations. Je commence à sentir mon bébé, tu vois. Donc ça, c'est magique. J'ai hâte de la rencontrer parce que c'est une petite fille. Et non, c'est beaucoup d'émotions. Là, je traverse une période vraiment riche en émotions, à tous les niveaux.
Qu'est-ce que tu apprends sur ton corps ? Qu'est-ce que ton corps t'apprend de nouveau sur toi-même que tu ne soupçonnais pas et qui se révèle aujourd'hui avec l'arrivée prochaine de cette petite fille ?
Ce qui est magnifique, c'est de se dire que ouais, le corps, c'est un outil. Il y a un truc tellement mystique, tu te dis, attends. Et la vitesse aussi, tu vois, tu fais ta première écho, tu vois une petite tache, et maintenant tu vois des mains, des pieds, une main qui te fait coucou, enfin tu vois, genre, tu dis, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi ? Tu commences à reconnaître des traits, Non, c'est assez magique. Là, je suis dans un truc plutôt de fascination de ce qui se passe, et juste d'écoute encore plus de moi-même, de mon ressenti, d'être dans un environnement sain, positif, très important. Je pense que quand je te disais que j'étais dans ça, justement, la transmission, tout ce qui est existence prénatale, c'est vrai aujourd'hui, comme voilà, je vais être maman, j'ai encore plus conscience de l'importance de ne pas garder avec moi des bagages lourds qui ne m'appartiennent pas et que j'ai surtout pas envie de transmettre à mon enfant. Donc là, j'essaye vraiment de m'épargner ça et de faire moi-même mon examen de conscience, entre guillemets, pour pouvoir faire en sorte que cet enfant arrive dans ce monde le plus léger possible.
Il y a une question que je pose à chacune des invitées de ce podcast, et que donc je vais te poser aussi. C'est aujourd'hui, comment tu te sens dans ta peau ?
Aujourd'hui, je me sens particulièrement bien dans ma peau. d'être vraiment, le mot ancré revient à chaque fois, mais c'est essentiel, je crois, par rapport à l'histoire de mes ancêtres. C'est important, l'ancrage. Et il y a un truc où, ouais, je me sens épanouie, quoi. Je me sens vraiment... j'espère que ça va durer. Aujourd'hui, je me dis... c'est important d'être honnête avec soi, en tout cas si on veut avancer dans cette vie, parce que c'est une vraie course de fond, et d'avancer le plus loin possible, sans trop de dommages. Parce qu'on parlait aussi de tout, du corps, de la santé, etc. Mais je sais que le mental, en tout cas, c'est quelque chose qui peut vraiment déclencher des vrais soucis de santé. Et en tout cas, je veux pas de ça dans ma vie, quoi. Je veux vraiment avoir la possibilité de me donner les chances, en tout cas, de mettre ce mental qui m'a fatiguée pendant des années de côté. Et voilà ce que je dirais. Donc ouais, non, en tout cas, je me sens à un moment de ma vie où je me sens vraiment moi, quoi, si je puis dire.
Je suis Lauriane Meulière et vous venez d'entendre Stéphie Selma dans Émotion de peau. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous à Émotion de peau, laissez-nous vos commentaires et surtout vos étoiles. Émotion de peau est un podcast de MyBlend produit par Louis Créative, l'agence de contenu audio de Louis Média, en collaboration avec Plume Rédaction. Karen Loyer a fait le montage, la réalisation et le mix de cet épisode sur une musique de Marine Kéméré. J'ai vraiment hâte de vous retrouver pour un prochain épisode. Je vous dis à bientôt.